Vous le savez, aujourd'hui plus que jamais, la sécurité de nos informations est cruciale dans les petites ou moyennes entreprises, les start-up tech ou les boutiques en ligne. Alors imaginez un expert cyber disponible à la demande, capable d'adapter ses solutions à la taille et aux besoins de votre entreprise. C'est ce que propose Orange Cyberdéfense, leader en cybersécurité reconnu à l'échelle mondiale. Que ce soit pour un diagnostic afin d'évaluer vos vulnérabilités, une formation personnalisée pour vos équipes ou pour tester vos défenses de manière proactive en simulant une attaque, Orange Cyberdéfense est présent pour les petites entreprises. Pour vous permettre d'en savoir plus, un webinar aura lieu le 28 mai prochain, une occasion idéale de poser vos questions directement aux experts. Il y a très peu de place, mais Monde Numérique vous offre l'opportunité de suivre cet événement exclusif. Il suffit de vous inscrire dès à présent sur le site orangecyberdéfense.com, rubrique événements avec le code Monde Numérique. Notez la date sur vos tablettes, 28 mai 2024, et inscrivez-vous dès à présent. C'est le rendez-vous à ne pas manquer pour prendre les devants contre les cybermenaces.
On se rend compte qu'aujourd'hui, au CES, la catégorie qui arrive en premier, c'est les appareils qui sont au service de notre vie au quotidien.
Bonjour, bienvenue à l'écoute de Monde Numérique, l'émission 100% Tech, chaque samedi sur toutes les plateformes de podcast. Le CES de Las Vegas aura lieu la semaine prochaine. C'est l'événement du mois, le grand rendez-vous annuel de la technologie. On va en parler abondamment dans cet épisode pré-CES, dans un instant avec mon camarade Bruno Guglielminetti à Montréal, et puis aussi avec deux spécialistes, les auteurs du livre « Le guide de survie du CES de Las Vegas », Lionel Tardy et Mathieu Deboeuf-Crouchon. Ils sont mes invités pour une interview exceptionnelle, très long format. Vous saurez tout sur cette édition 2024 du CES de Las Vegas. Avant cela, l'actu de la semaine, bien sûr, c'est Samsung qui s'apprête à dévoiler le Galaxy S24, Microsoft qui lance son IA copilote sur iPhone, Starlink d'Elon Musk qui sera désormais accessible directement avec un téléphone mobile, le gouvernement qui augmente les bonus de réparation pour les appareils électroniques, et enfin, une arnaque par SMS dont il faut se méfier. Bienvenue à l'écoute de Monde Numérique, l'hebdo du 6 janvier 2024.
Monde Numérique, Jérôme Colombin.
Très bonne année, vous qui écoutez Monde Numérique. C'est banal de le dire, mais c'est sincère et c'est de tradition, évidemment, puisque c'est la nouvelle année qui commence. Une nouvelle saison également pour Monde Numérique, ce podcast lancé il y a désormais un peu plus de 2 ans. Merci à vous qui avez choisi d'écouter cette émission. Monde Numérique, c'est chaque samedi 50 minutes de news et d'interviews. Et puis les autres jours de la semaine, eh bien, des interviews long format, des reportages, des bonus, des éditos, etc. Tout cela sur toutes les plateformes de podcast, également sur YouTube et même sur les assistants vocaux. Vous pouvez demander à votre assistant vocal, fais-moi écouter le dernier épisode de Monde Numérique. Monde Numérique, c'est aussi une newsletter, je le rappelle. Chaque samedi, l'essentiel de la tech par écrit. Il suffit de vous inscrire sur le site mondenumérique.info. Alors, cette année 2024 démarre sur les chapeaux de roue et elle démarre, comme il est de tradition, avec un événement mondial, planétaire. Ça se passe dans le désert du Nevada aux États-Unis. C'est le fameux Consumer Electronics Show, le grand salon high-tech CES de Las Vegas. J'y serai à partir de la semaine prochaine pour à peu près la 10e ou 15e année que je me rends sur place, afin de découvrir toutes les innovations qui sont présentées dans de très nombreux domaines. Je vous donne donc rendez-vous sur Monde Numérique, à la fois en audio, avec un podcast spécial quotidien, à partir du lundi 8 janvier. En étant abonné à ce podcast Monde Numérique, vous retrouverez, vous recevrez directement un épisode qui vous racontera ce qu'il faut retenir jour par jour de ce grand événement. Les annonces, l'ambiance, un petit peu les à côté aussi, je vous dirai tout. C'est pas terminé, il y aura également de la vidéo sur les réseaux sociaux. Je vous invite à regarder les petites séquences, les petits résumés en vidéo que je vais vous proposer. Et puis la newsletter, j'en parlais, eh bien, en vous abonnant à la newsletter, vous recevrez un journal du CES quotidien avec, là encore, les principales annonces par écrit directement dans votre boîte mail. Voilà, vous savez tout, c'est parti pour l'actu.
L'actu de la semaine.
L'actu de la semaine. Tiens, du côté des smartphones, c'est Samsung qui a dévoilé la date possible du lancement de son futur smartphone flagship. Vedette, le Galaxy S24. Alors, c'est pas officiel, mais il y a 99,9% de chances qu'il s'agisse du Galaxy S24 qui sera donc dévoilé le 17 janvier à l'occasion d'un événement dont Samsung a désormais l'habitude. Ça s'appelle le Unpacked, le déballage. Donc, un Galaxy S24 qui sera probablement dopé à l'intelligence artificielle, ça ne vous surprendra pas. On a déjà vu ça, notamment chez Google avec les derniers Pixel. On va donc bouffer de l'IA comme s'il en pleuvait. Et puis, Samsung doit également lancer une Galaxy Ring, une bague connectée. Ce qui est amusant, c'est que le 17 janvier, c'est une semaine après le CES de Las Vegas. Et il y a un petit télescopage. Du coup, Samsung va même faire, pour les journalistes qu'ils souhaitent, une présentation, en fait, de son Galaxy S24 sous embargo. C'est-à-dire qu'on n'aura pas le droit de dire ce qu'on voit. Mais à Las Vegas, dans un hôtel, présentation spéciale. En attendant le lancement officiel, donc qui aura lieu une semaine plus tard. Voilà, pour le reste de l'actu, eh bien, j'ai le plaisir d'accueillir et de retrouver Lisa de Bernard. Salut Lisa et surtout bonne année.
Bonne année Jérôme, bonne année à tous.
Alors on va commencer justement par un petit peu d'IA, mais vous allez voir, il n'y aura pas que ça, avec cette annonce de Microsoft qui va mettre à la disposition désormais des utilisateurs d'iPhone son système copilote déjà disponible sur les smartphones Android. Lisa, rappelle-nous un petit peu ce que c'est et à quoi ça peut servir ce copilote.
Eh bien, à rédiger un email automatiquement, résumer des textes complexes, analyser des images ou même écrire des histoires et bien sûr faire des recherches sur Internet. L'IA devient un outil accessible à tous. C'est ce qui permet Copilot de Microsoft. Derrière, il y a le fameux ChatGPT dans sa dernière version, GPT-4, qui est donc gratuit alors que l'accès direct à GPT-4 est normalement payant. On peut aussi utiliser l'outil DALL-E pour générer des images. Et le champ des possibles semble donc infini et à portée de smartphone. Alors comment ça marche? Eh bien, il faut tout simplement télécharger l'application Microsoft Copilot et c'est parti. Alors la seule limitation, c'est qu'à partir d'une certaine longueur d'échange, il faut tout de même se connecter à un compte Microsoft. Le point fort de Copilot, en revanche, c'est qu'il donne ses sources lorsqu'on effectue des recherches, ce qui limite les risques d'accéder à des informations erronées. Avec ce système, l'IA générative devient donc encore plus accessible au grand public et Microsoft marque des points dans la grande bataille contre ses concurrents autour de l'intelligence artificielle.
Et Microsoft va même sortir des claviers d'ordinateur avec une touche de raccourci Copilot. Donc, ils mettent vraiment du Copilot partout. En cette nouvelle année, l'actu, c'est aussi du côté des étoiles avec Starlink, la société d'Elon Musk spécialisée dans l'Internet par satellite, qui passe à la vitesse supérieure avec un nouveau service, le Direct to Cell, il faut le dire en anglais. Littéralement, ça veut dire directement au téléphone cellulaire, un service qui, comme son nom l'indique, devrait permettre de connecter nos smartphones directement aux satellites en basse orbite.
Et oui, Jérôme, des antennes relais aux satellites, il n'y a qu'un pas, ou plutôt 550 km d'altitude, et cela grâce aux 6 satellites lancés par Starlink dans la nuit du 2 au 3 janvier lors de la mission Falcon 9, une mission qui embarquait de tout nouveaux modèles, les Starlink Gen 2, un cran au-dessus de leurs prédécesseurs, plus costaud, plus puissant et doté d'une antenne de 25 mètres carrés. Et c'est d'ailleurs grâce à cette antenne grand format que Starlink devrait développer à terme une offre de Direct to Cell. Mais alors, qu'est-ce que le Direct to Cell? Eh bien, imaginez votre téléphone se connecter directement au satellite en basse orbite au lieu de passer par les classiques antennes relais terrestres. Objectif de la manœuvre, dire adieu aux zones blanches. Starlink a pour ambition d'offrir un accès continu aux SMS, aux appels et à la navigation, où que vous soyez sur Terre, sur les lacs ou dans les eaux côtières.
Donc, est-ce que tout le monde peut profiter de cette technologie?
Oui, à condition que votre smartphone soit équipé de puces et d'antennes 4G. Dans ce cas-là, vous serez éligible. Actuellement, le service est en déploiement. 2024 signera la possibilité d'envoyer des SMS avec cette technologie, tandis que les appels et la navigation Internet devraient être possibles à compter de l'année prochaine.
Voilà, un système qui rappelle un peu ce qu'a lancé Apple récemment sur iPhone, sur les dernières générations d'iPhone, une connexion directe à certains satellites, mais uniquement pour envoyer des SMS d'urgence. faire réparer ses appareils électroniques au lieu de les remplacer, c'est bien. Et le gouvernement a décidé de nous aider avec un nouveau bonus, un coup de pouce pour payer les réparations de téléphone et d'ordinateur ou d'ordinateur. Bon, alors, même si ce saupoudrage d'argent public peut susciter des questionnements, on le voit sur les réseaux sociaux, c'est en tout cas quand même de nature à encourager la durabilité. Concrètement, comment il faut faire, Lisa ?
Eh bien, en fait, il s'agit d'une extension du bonus de réparation sur l'électroménager, instauré par le gouvernement fin 2022 pour nous inciter à faire réparer plutôt qu'à jeter, et qui a été donc réévalué en ce début d'année. Parmi les nouveaux équipements éligibles, on retrouve les écrans de smartphone pour lesquels vous pouvez empocher un bonus de 25 euros, alors que jusqu'à présent, le bonus était réservé sur les téléphones à des réparations spécifiques, comme la batterie ou le micro. Les téléphones fixes rejoignent également la liste, tout comme les ordinateurs fixes qui ont maintenant droit à un bonus de 50 euros, tandis que les imprimantes, scanners et moniteurs peuvent valoir respectivement 35 et 30 euros. La liste des produits éligibles passe ainsi de 24 à 73 produits. Les aides varient quant à elles de 15 à 60 euros selon l'appareil. Certains produits bénéficient d'une augmentation, voire même d'un doublement de la prime, comme pour les téléviseurs qui passent à 60 euros, les lave-linges à 50 et les lave-vaisselle et sèche-linge qui passent de 20 à 40 euros.
Voilà, c'est la république du bonus. Bon, alors, sur le papier, c'est plutôt une bonne nouvelle, sauf que souvent, comme souvent avec ce genre de bonus, eh bien, il semblerait que, malheureusement, les réparateurs en profitent pour augmenter leurs tarifs.
Effectivement, selon l'association de consommateurs Consommation Logement Cadre de Vie, la CLCV, les tarifs de réparation des appareils électriques et électroniques ont augmenté de 10 à 15% en moyenne depuis la mise en place du bonus réparation en décembre 2020. Alors, dans le détail, l'association pointe par exemple une augmentation des tarifs de 12% pour les lave-linges, fours et cuisinières, 14% pour les téléviseurs et de 18% pour les téléphones portables. Ça n'est pas rien, hein. Et toujours selon la CLCV, ces augmentations s'expliquent par plusieurs facteurs. Effet d'aubaine, augmentation des coûts dus à l'inflation, auquel s'ajoute la complexité de certaines réparations.
Le monde de la réparation, c'est un maquis dans lequel il faut quand même être prudent. Donc faites attention quand vous recherchez un réparateur. Lisez les commentaires, etc. pour essayer de ne pas tomber sur n'importe quel margoulin. Et on termine justement par une arnaque, en tout cas par la dénonciation d'une arnaque. Vous avez peut-être reçu ce genre de SMS vous indiquant que vous aviez une contravention et qu'il fallait aller la régler au plus vite avec un lien cliquable. Des messages venant prétendument de l'ANTAI, l'Agence Nationale de Traitement Automatisé des Infractions. Mais attention, c'est un faux. Pas mal de gens sont tombés dans le panneau. Heureusement, ce genre d'arnaque quand même ne reste pas toujours impuni car les deux jeunes gens à l'origine de cette combine ont été appréhendés.
Et oui, 19 ans à peine chacun et près de 1700 personnes escroquées en quelques mois. C'est l'histoire de deux individus appréhendés par les forces de l'ordre parce qu'ils étaient à l'origine des fameux faux SMS de l'ANTAI. Leur méthode était d'une simplicité redoutable, Jérôme, mais non moins efficace. Les escrocs ont exploité la peur d'avoir négligé le paiement d'une contravention en contactant leur victime par message sur un ton alarmant. Le SMS indiquait qu'une amende impayée verrait son montant augmenter en cas de non-paiement imminent. Et en fin de message, comme tu le disais, un lien court renvoyait les victimes vers un site ressemblant trait pour trait à celui de l'ANTAI. Mais cette adresse conduisait, en réalité, vous vous en doutez, à une page contrôlée par les escrocs, un faux site de l'administration sur lequel ils récoltaient les coordonnées des cartes bancaires dans le but de réaliser ensuite des achats ou de revendre ces données. Une méthode assez commune, mais qui fait toujours ses preuves, comme l'a rappelé l'ANTAI. Celle-ci appelle à la prudence, puisqu'il existe des signes pour démasquer ces attaques. L'agence rappelle par exemple qu'elle n'envoie jamais de SMS. Et dans le cas où vous recevriez un email suspect, le comportement à adopter est de ne pas cliquer sur les liens et de ne pas diffuser de données sensibles. Pour rappel, le seul site officiel de l'ANTAI est le www.antai.gouv.fr. Pensez donc à vérifier l'URL dans le cas du binôme 1700 victimes. C'est justement l'URL qui comportait une erreur, seul signe de l'arnaque.
Voilà, antai.gouv.fr, l'adresse du site officiel. Gare aux clics qui peuvent coûter cher. Merci beaucoup, Lisa de Bernard, pour ce coup d'œil sur l'actu tech. En ce début d'année, eh bien, écoute, je te donne rendez-vous. Alors, peut-être la semaine prochaine, mais c'est pas sûr, car comme tu le sais, je serai à Las Vegas. Donc, si j'ai une petite place dans ma gondole sur le faux canal de Venise qui traverse Las Vegas, je t'appellerai. Et puis sinon, on se retrouvera la semaine d'après. Voilà, tu aimes les gondoles, Lisa ?
Oh oui, j'adore les gondoles. Et puis, ça serait avec plaisir hein, que je te rejoindrai. Et puis, sinon, s'il n'y a pas de place pour moi, je resterai sur les quais parisiens.
C'est bien aussi. Merci, Lisa. La suite de Monde Numérique, tout de suite.
Le débrief transatlantique.
Et salut Bruno Guglielminetti, comment vas-tu ?
Ça va bien, salut Jérôme Colombin.
Ravi de te retrouver pour ce débrief transatlantique, le premier de l'année 2024. Donc on reprend les bonnes habitudes, comme en 2023.
Et on fait ça en style. Hein ?
Tout à fait, on se retrouve chaque semaine dans ton podcast Mon Carnet et dans mon podcast Monde Numérique pour débriefer les sujets d'actu. Et évidemment, j'imagine que comme moi, tu es en train de faire tes valises, d'examiner tes tableaux Excel pour savoir de quoi sera faite ta semaine au CES de Las Vegas.
T'es sérieux? Toi, tu utilises encore Excel pour faire ça?
Alors non, pas du tout. Pas du tout, je
suis... Ah, tu me rassures, OK.
Oui, mais ça va, c'est pas honteux non plus. Mais non, je suis passé sur un autre truc. Je suis complètement fou d'un outil qui vient de sortir. Enfin, non, pas qui vient de sortir, qui vient pas du tout de sortir, mais...
Que tu viens de commencer à utiliser.
Ouais, que je connaissais déjà, puis je m'étais approché, ça m'avait pas plu. Bref, il s'agit de Notion. Connais-tu Notion ? C'est un truc, c'est pas mal. C'est une espèce de mix entre Excel et Word, mais en plus. Et c'est parfait pour faire des tableaux dans tous les sens.
Donc ça te permet de planifier ta visite au CES.
Exactement. Je planifie, je mets les noms des gens que je vais interviewer, les sujets, les noms des sociétés, les adresses, les trucs, les machins. Je suis chaud bouillant, là. Je suis en train de préparer ma besace. Bon, ben, alors comment tu abordes?
Tu vois, moi, j'y vais très tranquillement. Je prends mon agenda, je me fais des notes, je confirme par courriel et puis ça fait le tour. Hein. Après, on verra ce que moi, je ramène de là-bas, je me fais une tête et puis je compose une mission avec ça. Mais toi, évidemment, bon, tu fais une couverture quotidienne en plus de ta couverture hebdomadaire. Alors, c'est sûr que tu as besoin de planifier pas mal plus que moi.
Eh oui, toi, tu es un artiste. Moi, je suis une espèce de...
Toi, t'es une machine.
Je suis une machine, ouais. Ah oui, là, écoute, je vais sortir la grosse artillerie. Puis alors, j'ai une équipe à Paris qui va me faire les vidéos. J'ai ma petite Lisa de Bernard également qui va être mise à contribution, qui va surveiller un peu toutes les actus et qui va m'aider à rédiger la newsletter. Et puis moi, je serai sur place principalement pour faire la partie audio et faire des interviews.
Ah, quand même, travailles un peu de là-bas, toi.
Ah bah oui, ça, je vais travailler là-bas, oui.
Non, parce que je t'écoute.
Plutôt deux fois que
j'entends toute l'équipe autour de toi.
Oui, tu sais tout. Voilà, exactement. Et les auditeurs qui nous écoutent savent tout. Ils connaissent désormais
les
coulisses.
Alors, t'as l'approche presque... industriel, grand média, puis moi, ben, j'ai une petite approche artisan dans mon coin.
Ben non, tu sais, puis on va retrouver là-bas François Sorel qui, lui, alors là, maintenant, quand
c'est
il
la machine.
Déplace, c'est CNN, il y va, c'est la machine, il va avec 10 personnes, 2 assistants, 3 producteurs.
Ouais, c'est tout son entourage.
Si tu veux.
D'ailleurs, c'est pour ça maintenant que le grand patron du CES passe systématiquement le voir pendant l'événement.
Exactement.
Ça pourrait pas nous arriver, lui...
Bon, voilà. J'espère qu'il aura un peu plus de temps que l'année dernière pour se balader et aller visiter véritablement le CES, malgré tout. Hein. C'est un peu le souci quand on enquille les heures d'émission comme
mais
ça.
Mais sinon, plus sérieusement, parce que là, t'as fait plaisir aux gens qui se demandent comment ça se produit, mais déjà... Là...
comment on fait un podcast?
Exactement. Ouais. T'es dans ta planif. Et ça ressemble à quoi? Qu'est-ce qui t'allume? Qu'est-ce qui t'intéresse de ce que t'as vu?
Alors écoute, je crois que c'est clair qu'on va encore en avoir plein les mirettes, hein, avec des tas de sujets. Ça part un peu dans tous les sens, mais dans les choses un peu, je sais pas, j'ai l'impression qu'il y aura évidemment des choses en automobile, en objets connectés. Moi, j'ai noté des trucs, notamment la beauty tech. J'ai l'impression qu'il y a plein de choses. Il y avait déjà des choses l'année dernière. Regardez ça un peu du coin de l'œil, un peu dubitatif, mais il y a de plus en plus d'innovations technologiques au service de tout ce qui est cosmétique et autres. Et je sais pas si tu as remarqué qu'il y a même une keynote en ouverture du salon le 9 janvier du patron de L'Oréal.
C'est une première. Hein?
C'est étonnant. Hein? Je trouve que c'est assez... symboliquement, c'est assez amusant. Et toi, qu'est-ce que tu as repéré de beau?
Moi, tu mentionnais l'automobile. Je suis curieux d'aller faire un tour de ce côté-là. Écoute, ils ont 300 exposants uniquement dans le monde de l'automobile. Là, ça devient un salon de l'auto de Las Vegas, là, cette affaire-là. Alors ça va être intéressant. Sinon, moi, je suis à la recherche de la version du produit le plus inusité qui s'annonce étant un produit qui est AI, qui est intelligence artificielle. Parce que on avait vu dans les années passées, à l'époque quand c'était c'était la folie du iPhone, là tout était iPhone compatible. Après ça a été quelque chose. Après ça a été Facebook compatible. Après ça a été Alexa compatible. Alors là j'ai hâte de voir qui va aller se positionner comme étant compatible à l'intelligence artificielle, mais qui a vraiment aucun lien avec ça, pour montrer l'absurdité un peu de la vague marketing qui entoure l'intérêt face à l'intelligence artificielle. Ouais. J'en ai vu 2-3, mais je suis pas certain que ça va être mes champions. Alors, je vais pas les mentionner, mais ça risque d'être intéressant.
Tu cherches la petite bête un peu. Tu cherches quelqu'un à te payer, quoi.
Tu veux
un peu aller les titiller.
Non?
Ben ouais,
mais faut montrer aussi c'est ce que c'est le CES. Hein. De temps en temps, des marchands du temple, là, il y en a quelques-uns.
Ah oui, il y en a plein. Mais il y a quand même moi, j'ai trouvé un truc qui a l'air, par exemple, hein, un exemple parmi d'autres d'un truc vraiment vu de loin, ça fait, pardon, mais un petit peu foireux. Je ne sais pas si tu l'as repéré, c'est un détecteur de présence dans le dos. C'est un espèce de truc qui se clipse, c'est pour les femmes, pour éviter les agressions. Un truc qui se clipe dans le dos, et si quelqu'un te suit, par exemple, quand tu es en train de faire ton jogging, si tu es une jeune fille, à ce moment-là, ton téléphone sonne, enfin, tu as une alerte sur ton téléphone, et tu te retournes et tu le vois. Alors, il y a une vidéo qui montre tout ça, j'ai dit, mais enfin, on marche sur la tête, quoi. C'est-à-dire qu'il faut un détecteur pour savoir si tu as quelqu'un. Alors, effectivement, si tu as des oreillettes, peut-être que tu es un peu isolé et tout, mais ça fait surréaliste. En plus, le film est ridicule, pour tout dire, parce qu'elle se retourne, du coup, le type a peur et il s'en va. Mais je ne jette pas le bébé avec l'eau du bain, je vais aller voir, et peut-être qu'en fait, j'ai rien compris, et c'est très intéressant. On verra.
Ouais, ben c'est comme moi, j'ai hâte de voir s'ils sont toujours au Eureka Park. Ben non, moi je suis bouche bée, alors je passe à un autre sujet. Mais j'ai hâte de voir s'ils sont encore présents au Eureka Park. C'est un designer français qui nous a présenté il y a 3 ans environ, ou 2 ans, un jean branché. Et j'ai hâte de voir s'ils sont encore là.
Ah ouais?
S'ils ont perduré dans leur initiative. J'avoue que la seule utilité pratique que je trouvais, c'était quand tu es en train de marcher sur la rue et que tu cherches ton chemin, alors tu lances Apple Maps ou Google Maps et puis ça t'envoie des petites vibrations sur les hanches quand c'est le temps de tourner à gauche, quand c'est le temps de tourner à droite, plutôt que d'avoir le téléphone dans les mains. Mais à part de ça, je trouve ça un peu dangereux d'avoir un jean branché. Moi.
Mais c'est pas ce jean qui avait été lancé par Google, c'est pas Google qui avait mis au point ou qui avait racheté une start-up qui faisait une espèce de tissu comme ça avec des conducteurs à l'intérieur. Et il me semble bien qu'ils étaient dans ce truc-là. Après, il y a des choses intéressantes, enfin, il y a peut-être des choses pas mal. Je pense qu'on va avoir des choses du côté des lunettes connectées aussi. Hein, il y a des trucs qui se préparent, des lunettes ultra fines, des lunettes à réalité augmentée, etc.
On va avoir des nouvelles des fameuses Ray-Ban aussi qui ont évolué. On verra probablement la nouvelle génération.
Bon, c'est intéressant. J'ai l'impression qu'il y a pas mal de trucs, sans vouloir faire cocorico mon franchouillard, mais j'ai l'impression qu'il y a pas mal de trucs français, encore une fois, et pas forcément inintéressants, hein, du jumeau numérique au détecteur de chute par onde Wi-Fi, etc., etc. J'ai l'impression qu'on va avoir du grain à moudre.
Ouais,
en
mais
fait,
mais tu aurais le droit de faire ton cocorico parce que année après année, la délégation française, c'est quand même la délégation la plus importante à l'extérieur des Américains qui sont chez eux. Alors c'est normal qu'ils soient nombreux, mais encore cette année, ouais, c'est ça. J'ai regardé les délégations étrangères entre guillemets. La France, si je me trompe pas, est toujours bonne première.
Oui, tout à fait. La France essaye d'être toujours aussi présente, mais en même temps en affinant le tir parce qu'à une époque, ça partait un peu dans tous les sens. Enfin voilà, donc le CES, hein, autant vous dire, vous qui nous écoutez, qu'on est à fond dedans, on se prépare à prendre l'avion très prochainement. Et j'imagine que tu en parles, et bien je sais d'ailleurs que tu en parles.
Ah oui, parce qu'on fait garde partagée avec nos invités cette semaine.
Et oui, alors là, je crois qu'on fait très fort. On a les mêmes invités cette semaine.
Ouais. Bon, ben, non, voilà. Mais moi, je trouve que c'est intéressant.
Ça devait arriver.
Je trouve que c'est intéressant pour les auditeurs parce que si vous avez le goût de connaître la différence entre Jérôme Colombin et moi, quand on fait des entrevues, je pense que c'est le plus bel exemple parce que c'est probablement environ de la même taille comme entrevue. C'est deux entrevues très longues où on prend le temps de passer à travers les sujets. Mais ça sera intéressant. Puis, entre nous, là, ça sera aussi d'écouter, ce sera de bien écouter les réponses de nos invités, qui sont les auteurs du guide de survie du CES 2024. Vous allez voir comment ils répondent à Jérôme et comment ils répondent à mes questions. Vous allez voir, il y a des subtilités qui ont changé. Alors, c'est ça. Mais donc, tous les deux, c'est ça. On a notamment ces invités-là qu'on se partage.
Mathieu Deboeuf-Rouchon et Lionel Tardy, qu'on va retrouver juste après dans nos podcasts respectifs.
Bon, ben écoute, je te souhaite une bonne préparation. On se recroise à Las Vegas, et puis sinon, ben, je souhaite une bonne année.
On se retrouve en vrai à Las Vegas, ouais.
Je souhaite une bonne année à tes auditeurs, et puis je poursuis avec les miens.
Exactement, pareil, je souhaite une très bonne année 2024 à tous tes auditeurs et à toi-même, mon cher Bruno, et je te donne rendez-vous à Las Vegas dans quelques jours. Salut, salut!
Tu me fais ton interprétation incontournable de Viva Las Vegas, en terminant?
J'ai pas répété, là. Je suis pas chaud.
L'an prochain. Salut!
Non, je vais pas le faire. Ouais, l'an prochain. Bye. Plus de 3000 exposants, 120 000 visiteurs venant de 150 pays, 5000 journalistes. Le CES de Las Vegas, chaque année, fait le plein de tout ce que compte le monde de la technologie. Il s'étale dans différents lieux de la ville de Las Vegas, la ville de toutes les folies, Sin City, la ville du péché et du vice, mais également la ville de l'amusement, du gigantisme avec ses grands hôtels casinos complètement fous. Je peux vous dire qu'au bout de quelques années, on en a un peu marre des grands hôtels casinos, mais la magie continue néanmoins d'opérer et surtout grâce à ce fameux CES qui demeure un événement absolument exceptionnel. Alors le CES, c'est l'occasion de découvrir toutes sortes d'innovations, vraiment des plus bêtes et des plus irréalistes aux plus prometteuses pour le futur, des choses qui peut-être ne seront jamais commercialisées, ne verront jamais le jour, et puis d'autres qui sont déjà là et qui simplement sont améliorées. Il y a les grands exposants, les Samsung, Sony, etc. Il y a des absents aussi, il n'y a pas Apple. Apple ne participe jamais à aucun salon. Cette année, on notera également l'absence du constructeur automobile européen Stellantis. La défection avait fait beaucoup de bruit en milieu d'année, en fait pour des raisons surtout économiques liées au marché de l'automobile et à la santé économique même du groupe. Bref, les tendances du CES de Las Vegas, quelles sont-elles? On va en parler dans un instant, car pour cet événement pas comme les autres, je vous ai concocté une émission pas comme les autres, avec une seule interview cette semaine. Oui, mais quelle interview? Deux invités, tout d'abord, et puis surtout, on va décrypter en détail et en longueur. Alors, cette interview est proposée en version longue intégrale si vous écoutez la version premium de Monde Numérique sur Apple Podcast. Et je la recommande d'ailleurs aux professionnels qui éventuellement se rendent au CES de Las Vegas parce qu'ils vont apprendre plein de choses sur comment faire sur place, etc. Et puis aussi sur l'historique du salon. Sinon, dans la version standard de Monde Numérique, l'hebdo, eh bien, on va aller directement au cœur des tendances du CES 2024. Mathieu Deboeuf-Rouchon, Lionel Tardy, bonjour messieurs.
Bonjour.
Bonjour Jérôme.
Vous êtes donc les deux co-auteurs de ce guide, guide de survie presque pour le CES de Las Vegas, édition 2024 bien entendu. Cette année, le thème c'est « A tech for a better tomorrow ». Il y a toujours un thème, hein. Donc la tech pour des lendemains qui chantent, on pourrait traduire ça comme ça. Vous avez décortiqué, analysé toutes les composantes de cette thématique, les stands et les exposants qui sont mis en avant dans le cadre de cette thématique. Comment est-ce que vous résumez tout ça? Qu'est-ce que vous en pensez, Lionel Tardy?
Bon, déjà, depuis quelques années, on voit l'évolution de cette, moi j'appelle ça une ligne éditoriale, cette ligne éditoriale du CES qui était partie sur la résilience déjà il y a quelques années, après sur cette technologie qui va nous promettre un meilleur futur ou un meilleur lendemain, et puis un meilleur monde. Et aujourd'hui, oui, on se focalise sur le meilleur monde. Donc, la résilience, beaucoup. La question est aussi, est-ce que l'intelligence artificielle permettra, puisque on va l'avoir à tous les étages cette année, quand on scrape le site du CES, chaque entreprise, chaque exposant s'enregistre dans 5 catégories différentes, et donc en faisant le calcul tout simplement des catégories les plus plébiscitées par les exposants, on se rend compte qu'aujourd'hui au CES, et on est bien dans du consumer electronic show, du consumer good, la catégorie qui arrive en premier, c'est les appareils électroniques et la smart home, c'est-à-dire les appareils qui sont au service de notre vie au quotidien. Et la deuxième catégorie qui apparaît cette année, c'est la catégorie sans surprise d'intelligence artificielle, avec un peu plus de 780 entreprises qui se sont enregistrées sous l'étiquette intelligence artificielle. Alors, pour le grand public, on va s'arrêter souvent à ces catégories-là. Ce que vient d'expliquer Mathieu, c'est évidemment le travail qui se fait en transverse avec les sous-jacents de chacune des propositions de valeur qui sont faites pendant le salon. Mais pour le grand public, c'est vrai qu'on s'arrête d'abord à la catégorie principale de l'exposant. C'est-à-dire, qu'est-ce que je propose moi en tant que fabricant d'objets d'objets connectés avec tel ou tel sensor, avec telle ou telle partie de edge computing intégrée pour pouvoir le rendre plus intelligent. Alors, je prends un IoT, un sensor et de l'intelligence artificielle et je vous fais un truc super. Et donc, telle ou telle entreprise va se mettre dans ces trois catégories, plus la santé, parce qu'en plus, la proposition de valeur est autour de la santé. Et c'est vrai que pour le grand public, eh bien, cette année, on parlera forcément énormément de ce qui se passe autour de l'intelligence artificielle qui est le sous-jacent de produits de la maison, mais aussi de produits qui sont dans la santé, mais évidemment dans la mobilité et la mobilité avancée, puisqu'ils appellent ça Advanced Mobility, que seront les mobilités de demain. Mais c'est vrai que depuis quelques années, la mobilité nous réserve toujours quelques surprises, puisque que ce soit dans les premières grandes annonces, même à l'époque où Carlos Ghosn était encore à la tête de l'alliance Renault-Nissan, où on nous promettait, ou en tâche de fond, Elon Musk nous disait que de toute façon, la voiture autonome, c'était pour dans 2 ans, et ça fait 5 ans ou 6 ans ou 7 ans que c'est pour dans 2 ans, et on sait très bien que pour beaucoup d'observateurs et spécialistes de la voiture autonome, on sait bien que ce modèle 100% autonome, ça sera probablement jamais pour des problématiques techniques et puis pour des problématiques d'acceptabilité des utilisateurs que nous serons tous. Mais par contre, au cœur de ces produits, pour le grand public, et c'est souvent ce qui est relaté par ce que toi tu fais comme travail et tes collègues qui sont sur des médias grand public, c'est de sortir directement de ce qui est proposé comme valeur, parce que c'est ce qui est immédiatement compréhensible par un auditeur ou un téléspectateur lambda.
Mais tiens, il y a la valise autonome quand même qui est sortie.
La valise,
si, c'est le cas.
La valise autonome.
Ça marche bien. Ça, c'est pendant deux ans, mais ça marche tout de suite.
Oui, mais moi, j'en ai acheté une, mais je l'avais découverte, non pas à Las Vegas, je l'avais découverte au CES de Shanghai, la valise autonome.
Mais ça, c'était les CES Asia. C'était la bonne époque où, en fait, on croyait que le CES allait s'implanter ad vitam aeternam en Asie. Malheureusement, ça n'a eu lieu que 2 éditions.
Mais c'est comme la valise, elle n'a pas eu beaucoup d'éditions et je ne la recommanderais pas.
Hein. C'est-à-dire qu'elle est partie toute seule sur le tarmac à un moment et on ne l'a jamais vue.
Mathieu, Lionel, il y a déjà un ou deux exposants, quelques petites choses là que vous avez repérées qui vous font briller les yeux.
Il y a pas mal de choses très intéressantes. Alors alors c'est à la fois grand public et pas grand public. C'est-à-dire que ce qui est intéressant d'un point de vue technologique, c'est une société qui propose et qui s'appelle HEAT, donc H-E-A-T, IT, et qui propose de stopper les démangeaisons et la douleur après les piqûres d'insectes. Moi, j'ai trouvé ça intéressant. Pourquoi ? Parce que c'est pas avec une crème, c'est pas avec tout ce qu'on pourrait avoir de médicaments classiques. C'est une petite dongle qu'on connecte directement à son smartphone et qui va simplement travailler au niveau de la chaleur que ça va pouvoir donner sur la peau. Et donc, on va appliquer ce petit capteur qui est connecté comme en lighting hein, sur son iPhone, directement sur la piqûre. Et c'est aujourd'hui, c'est une société allemande, et qui propose ce service que j'ai trouvé absolument intéressant. Alors, c'est une pépite plutôt grand public en soi, mais j'ai hâte de les rencontrer pour mieux comprendre leur dispositif et surtout la façon dont ils travaillent d'un point de vue purement scientifique. Qu'est-ce qui les a amenés à réfléchir sur ces sujets et comment est-ce qu'ils ont craqué ce verrou qui est intéressant justement pour stopper les démangeaisons. Après, il y en a aussi de très intéressantes sur la sleep tech naturellement, parce qu'elle fait partie aussi de cet aspect wellness. Le wellness monitoring, on monitor son bien-être, qui est quelque chose qui est très intéressant. Beaucoup de choses sur les neurosciences. Ouais,
c'est une vraie tendance CES depuis de longues années.
De toute façon, on voit bien que la percée aujourd'hui... Alors, ce qui est intéressant dans la santé, c'est que on est, en tout cas cette année, dans l'analyse qu'on a pu en faire dans les conférences préparatoires qu'on a déjà données, c'est l'instantanéité du diagnostic, parce que ça, c'est quelque chose qui est assez fort, et l'instantanéité du diagnostic à domicile ou dans des officines qui préalablement envoyaient tout ça à des laboratoires, etc. On voit bien que sur les différentes capacités de captation d'informations et d'analyse, il y a beaucoup de dispositifs aujourd'hui, que, par ailleurs qu'on a vu aussi passer dans les Innovation Awards, hein, parce qu'il y a eu beaucoup de ça. Alors, plus encore, très très grande présence, il faut le souligner quand même dans les CES Awards, de la Corée du Sud. Là, ils sont vraiment tous sur ces sujets-là, instantanéité du diagnostic, préserver l'être humain, alors sur toute la catégorie Human Security for All, qui est une catégorie assez spécifique, sont très présents, et donc vous allez les retrouver beaucoup sur le CES. Bon, il y en a une autre qui m'a beaucoup plu, puis après je pense que Lionel aussi beaucoup, et qui s'appelle Phantom, Phantom, c'est le produit, ça s'appelle Afférence, la boîte qui l'a développé, je crois qu'on les retrouvera de mémoire sur l'Eureka Park, et ils ont développé en fait pour les expériences que l'on va pouvoir vivre dans les mondes immersifs. Alors on parle de métaverse sans parler de métaverse parce que je crois que c'est un mot tabou au CES, mais on est dans les, c'est une technologie qui va nous permettre justement d'avoir des ressentis de force à la main, donc on va chausser des gants comme les Sense Glove Nova l'année dernière, ou par exemple on chausse un gant et on va ressentir des sensations au niveau de la main, au niveau du toucher, et surtout au niveau des retours de force des produits qui sont en réalité des produits purement virtuels. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai trouvé assez intéressant. Je pourrais t'en lister beaucoup, mais avec Lionel, on les a pas mal travaillé. Et c'est vrai qu'il y a énormément de choses. Alors, il y a beaucoup de choses aussi sur les neurosciences. Il y a beaucoup de choses. On va revoir Paula, je crois aussi, le grand classique sur Y-Brain.
Oui, de nouveau, oui, c'est cette société qui était déjà présente, alors encore une fois, en Corée du Sud, avec un dispositif que l'on applique sur le front et avec une série de capteurs qui va être là pour améliorer le ressenti, le déstressage. Alors, comment se déstresser? Peut-être que l'on vit dans une société qui est ultra stressante et que peut-être que les Coréens du Sud sont encore plus exposés à une vie stressante que nous. Ils font peut-être plus que 35 heures, je ne sais pas. Ils ont peut-être un peu moins que de 5 ou 6 semaines de vacances.
C'est sûr, même.
En tout cas, voilà.
Ils ont des journées.
Et voilà des réponses.
Hein. Intenses dès l'école, en plus.
C'est ça.
Voilà des réponses. Mais bien sûr, on retrouvera avec grand plaisir, notamment Dassault Systèmes qui l'année dernière nous avait impressionné avec sa duplication avec son digital twins du corps humain, comment son digital twins va évoluer entre le cœur, la peau, etc. Donc quelles sont les réponses?
C'est d'ailleurs intéressant le digital twin, parce que tu soulignes quand même le sujet de fond qu'on voit sur l'industrie et qu'on constate au CES par tous les acteurs industriels qui sont présents, dont Dassault. Et cette suite 3DS a quand même pour objectif finalement de supprimer à terme tous les prototypes physiques qui ne servent à rien, parce que l'idée étant de pouvoir capter les données extérieures, les intégrer dans ces maquettes numériques pour supprimer le prototypage physique et avoir du prototypage à terme qui soit quasiment uniquement simulé. Et si c'est pareil, si on extrapole un peu dans la santé, on pourrait imaginer qu'à terme, c'est cette donnée collectée du vivant qui est intégrée dans des jumeaux numériques d'êtres humains qui permettront de tester très certainement des médicaments, le travail de certaines protéines sur des données qui seront purement finalement immatérielles et qui éviteront de faire des hordes de tests à terme sur les patients humains. Donc ça, c'est des choses qui sont intéressantes, qu'on voit pas forcément en tant que première lecture du CES, mais qui sont tout le sous-jacent qui en font un salon extrêmement extrêmement pertinent et deep tech orienté avec des acteurs qui sont sur des sujets profonds.
Oui, bien sûr. D'ailleurs, Dassault Systèmes, vous faites bien de le citer, et on aura l'occasion d'y revenir en détail. J'y reviendrai dans Monde Numérique. Vous l'avez dit, donc beaucoup d'Asiatiques, de Coréens. Bon, Dassault Systèmes, eux, ils sont français, même s'il y a une partie de la recherche, je crois, qui se fait aux États-Unis. Du côté des exposants, où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Est-ce qu'il y a encore un pays qui domine? Alors, depuis quelques années, la French Tech est très très présente, hein, du côté des startups, mais les grands groupes, ils sont asiatiques, c'est Samsung, LG, Huawei, etc. Les Américains, évidemment, sont omniprésents. Comment vous le sentez, tout ça, cette répartition géographique, voire géopolitique même, de la tech?
Géopolitique, c'est intéressant. Tu vas revenir sur la 5G?
Non, on va Lionel pas revenir Tardy. Sur l'affaire Huawei 5G, etc. Huawei, d'ailleurs, s'en remet très très bien. Mais si la France a été pointée, je crois, il y a 3 ou 4 ans, comme étant la deuxième nation la plus représentée au CES, avec environ 400 et quelques exposants, derrière évidemment les États-Unis, mais ça c'était il y a quelques années, où la qualité des exposants, et notamment les startups qui étaient embarquées par la French Tech, étaient parfois assez modérément ou moyennement bien
exposées. C'est inégal, on va dire.
Voilà, exactement, très inégal. Eh bien, aujourd'hui, on arrive à des chiffres un peu plus raisonnables et un peu plus en représentation de l'importance des différents pays. Donc, forcément, les premiers représentés sur les 4000 exposants annoncés sont les États-Unis avec plus de 1000 exposants. Très proche derrière eux, les Chinois.
Retour
en force. C'est vrai que les années Covid, ils avaient levé largement le pied sur cette exposition, sur ce show. Mais on est, alors, sur les chiffres que nous on a 1145 exposants qui sont de nationalité états-unienne, pour 1100 chinoises, et 700 en Corée du Sud. Et cocorico, mais seulement avec un tout petit peu moins de 200, en quatrième position à la France, avec 195 exposants de nationalité française.
Alors ça, c'est les chiffres que nous, on a extraits de notre travail, de la base de données sur laquelle nous, on bosse. Ça peut évoluer jusqu'au CES, mais on est quand même dans une lignée assez intéressante. Moi, ce que j'ai trouvé, en tout cas, inimaginable par rapport aux années précédentes, c'est, ayant eu la chance d'être juge sur les CES Awards cette année, c'est la présence massive de la Corée du Sud sur tous les sujets relatifs finalement à la technologie au sens large, très orientée santé et plus encore orientée la façon dont la technologie peut aider l'humain à être plus résilient. Ça, c'est quelque chose qui est assez marquant. Après, même si nous, on est en quatrième position, en soi, on est quand même dans le haut du panier. Après, ça descend assez vite. Je dirais que la plupart des pays sont représentés en dessous de 100 exposants, voire des fois un seul. Donc, il y a des pays qui viennent tout seuls. Ben, Malte, a priori, un seul exposant.
Malte. Oui. Ouais. Mais si on veut être un petit peu non correct, si on additionne les entreprises qui se réclament taïwanaises, et elles sont 178, si on les ajoute aux entreprises qui se réclament de la Chine, République populaire de Chine, qui sont 1100, eh bien les deux réunis, évidemment, ils dépassent les États-Unis.
Ce qu'il faut préciser aussi, c'est que il y a vraiment tous les formats, c'est-à-dire qu'un exposant, ça peut être une marque avec un stand de plusieurs dizaines, voire centaines de mètres carrés, ou bien quelqu'un avec un tréteau au CES Unveiled, avec 50 cm carrés.
Hein. C'est ce qui fait le charme, la quête
du CES.
La quête presque du CES, parce que c'est un salon dans lequel il faut se laisser, on en parlait avec Olivier récemment, du temps aussi. C'est-à-dire, on a un programme extrêmement dense. Nous, on commence nos journées vers 5h du matin et on les termine à peu près vers 2h.
Vraiment des athlètes. Hein.
En tout cas, il faut être bien préparé, parce que ça peut faire mal. Enfin, avec le temps, on s'aperçoit qu'après 10 ans, ça commence à tirer. Mais ce qui est intéressant, c'est quand même de se laisser aussi de la marge, parce que se laisser la possibilité de découvrir quelque chose, de tomber sur un imprévu, une rencontre, font qu'un CES peut se transformer en un CES extrêmement intéressant, ou un CES classique, plutôt CES. Donc en fait, les rencontres peuvent... On parle beaucoup de technologie sur le CES, on est quand même globalement tous des gens de la tech, et pour autant, c'est un salon qui est extrêmement humain, c'est un salon qui place la rencontre, qui place l'échange au cœur de tout. Et ça, c'est quelque chose qui est presque irremplaçable. Ces discussions que l'on va pouvoir mêler avec des chercheurs, avec des scientifiques, avec des start-upers, des fois plus qui ont une teinte plus commerciale, d'autres plus techniques, d'autres plus des ingénieurs, on va avoir une masse d'informations à traiter qui est absolument fantastique. Il faut se laisser aussi ce temps de traitement quand on revient ou le matin ou même dans la journée de pouvoir reclasser toutes ces informations que l'on a. Sinon, comme Lionel en parlait sur les phrases un peu toutes faites quand on rentre, bah, on ne sait pas ce qu'on a vu quand on en a, parce qu'on a tellement vu qu'on a du mal à finalement se dire mais qu'est-ce que j'ai vraiment vu ? On ne sait pas. Et donc en fait, il faut vraiment travailler tout au long de la semaine sa documentation et les informations qu'on a collectées pour que ce soit pertinent. Mais bon, tu soulevais qu'effectivement le pavillon suisse vient avec effectivement la Suisse, puis il y a 50 startups à l'intérieur, et puis un peu moins de 50 cette année, et puis l'Italie, bah, c'est pareil, et donc en fait il y a des stands qui intègrent d'autres stands. Mais ça, c'est la particularité de l'Eureka Park qui est finalement l'espace, en tout cas pour nous, de prédilection, celui dans lequel il y a une énergie complètement folle, au-delà parce qu'il y en a déjà beaucoup de Français, mais surtout parce que globalement, il y a toutes les universités qui sont présentes, vous allez avoir Samsung qui a ses labos de recherche, voilà, c'est là on est vraiment dans la deep tech de choses, on se dit mais qu'est-ce qu'on va pouvoir en faire dans les 5 ans qui viennent, et ben, on trouve des choses, et il y a vraiment des pépites. Il faut aller à cette rencontre, il faut poser des questions, le CES, c'est avant tout des échanges autour de la technologie, mais des échanges humains.
Est-ce que, sans compter même les gens qui viennent avec simplement un pass visiteur, mais qui sautent sur tout ce qui bouge pour distribuer des cartes de visite, des prototypes, etc. Moi, il m'est arrivé parfois, dans certains endroits, de cacher mon badge presse pour pouvoir marcher calmement.
Tu as bien raison.
Sinon, on se fait interpeller tous les deux mètres. Encore une question quand même à tous les deux. Le CES, c'est plein de belles choses. C'est des récompenses, c'est des pépites. Mais c'est aussi un peu, on le voit chaque année, ce qu'on appelle, entre nous journalistes, le royaume du bullshit. Il y a beaucoup de fausses annonces, de choses qui ne passeront pas à la barre, qui ne seront jamais commercialisées. Parfois parce que finalement, ben, c'est pas à la hauteur. Parfois parce que dès le départ, on sent que c'est un peu foireux et que c'est un peu se moquer du monde et c'est un peu se faire de la publicité à bon compte. Comment trier le bon grain de livret selon vous ? Qui veut répondre ? Lionel Tardif.
Allez, je me lance. Bon, d'abord, on peut. Là, on est en train souvent de parler d'exposants qui sont majoritairement localisés à l'Eureka Park et
donc,
que l'on va
des start-up.
Pas forcément
les,
voilà
les petits
des startups et que l'on ne va pas forcément identifier directement comme étant le stand que l'on voulait absolument visiter lors du scrapping de tout ce qui est présenté sur le site de la CTA. Et donc là, on voit quelque chose par sérendipité. Par hasard, en se promenant, et on se dit non, mais c'est pas possible qu'ils aient présenté un truc pareil. Alors,
on se souvient à une époque même de ce français.
La petite boîte qui faisait les love messages.
Ah oui,
on l'a vu quand même deux ans de suite, celle-là.
On a vu la love box. La love box, c'est effectivement, tu sais,
rappelez-nous ce que c'était.
Qui reçoit un message et qui a le petit icône qui tourne quand tu as reçu un message avec un écran qui était la première version qu'on avait vue, qui était un écran type d'un Nokia 3310 à l'époque où il n'y avait même pas un jeu de serpent, le message apparaissait. Mais quelle est la valeur mais en même temps, c'est le consumer. Alors c'est pas une erreur de casting parce que globalement, on est quand même sur un produit qui a marché, qui a trouvé son public.
Mais voilà, c'est ça qui est fou, c'est que ça peut trouver son public.
Bien sûr, mais c'est pas quand même au niveau de la Smart Potato. Rappelle-toi, il y a deux ans, celui qui avait connecté une antenne Wi-Fi à une patate en faisant croire que globalement. Mais et là, globalement,
ça c'était formidable.
Mais bien sûr, c'est formidable.
Bon, c'était fake, mais c'était un français et c'était une manière plutôt amusante. J'ai envie de dire bien française de souligner aussi ce côté un peu.
Exactement.
Bullshit.
Mais tu soulignes le côté bullshit dont on peut s'apercevoir si on prend du recul sur la capacité d'intégration de ce que l'on voit. Est-ce que globalement, ça va rencontrer un marché ? Bon, ça, en même temps, on n'est pas forcément le bon client, mais en tout cas, on peut reconnaître que le fit market, on peut aller le trouver sur certains produits. Deuxièmement, est-ce que c'est intégrable ou pas ? Est-ce que c'est réaliste ou pas ? Est-ce qu'on est sur quelque chose qui est de l'ordre du possible, du probable ou du souhaitable ? Et donc, à partir du moment où on a ce prisme, on se dit... Est-ce que c'est dans 5-10 ans ? Est-ce que c'est dans 2-3 ans ? Est-ce que c'est dans... Ouais, par exemple, les écouteurs Mars qu'on avait vus et testés, on s'est dit, oh, les CES Awards, ça va être magnifique, c'est il y a 4-5 ans, ça va être grandiose, on va mettre un écouteur chacun, tu vas pouvoir... Toi qui parles anglais très bien et moi javanais encore mieux, on pouvait s'échanger des trucs, et puis moi je parlais dans une langue, tu me comprenais, tu me reparlais dans une autre langue, je me comprenais, ça traduit automatiquement. Puis on a testé le produit sur place. Et là on s'est dit, ah ouais, mais on est très loin de la vidéo. On est très loin de ce qu'on nous promet. Pourquoi ? Parce que ça passait par une connexion, Bluetooth vers le téléphone. Le téléphone passait lui-même par une connexion qui, à Las Vegas, on le sait tous, est quand même relativement désastreuse. Et donc, l'expérience que l'on a vécue nous dit que oui, il y a beaucoup de choses à faire. On était pré-GPT, on n'était même pas encore dans les vrais LLM de langue qui étaient vraiment performants et disponibles. Donc, on était quand même sur une... Oui, ça va être quelque chose de fantastique. Oui, ça va exister. En l'état, c'est pas... ça fait partie, finalement, de toutes ces... Il y en parlait très bien, de toutes ces innovations qui se séparent et qui d'un seul coup vont converger parce que d'un seul coup il y a un momentum, une accessibilité de la techno qui va finalement faire ressortir les choses et créer un service qui soit digne de ce nom. Mais Mars par exemple, ça faisait partie des choses qui étaient superbes sur le papier avec une expérience un peu moins bien quand on l'a pu le tester et qui maintenant fonctionne merveilleusement bien quand tu mets un GPT dedans et puis finalement ça fait le travail. Donc on s'aperçoit que voilà, bon, il y avait aussi le drone livreur de PQ fut un temps aussi, ça on avait vu beaucoup. On peut t'en raconter une autre qui était assez sympa, c'était sur Satisfyer. C'est que on sortait du CES 2020 qui était le non 2021 qui était le celui hybride 2022. Donc celui qui était le CES hybride où il y avait que 40 000 visiteurs et puis on sort du stand Hyundai. Et là, on voit une queue qui fait 100 mètres de long. On se dit, mais qu'est-ce que c'est que ce stand? Il faut absolument qu'on aille voir, etc. Et on s'est aperçu qu'en fait, c'était le stand de Satisfyer, donc le spécialiste des jouets pour adultes, qui finalement amassait toutes les personnes du CES pour faire tourner une roue et gagner des jouets pour adultes. On s'est dit, finalement, le CES, c'est aussi ça. C'est aussi aller chercher des fois du fun. Alors après, on cherche du fun un peu tous les ans. Cette année, c'est pas forcément on trouvera peut-être, mais en tout cas, de visu comme et ça, ouais. Tout ce qui est autour des jouets pour adultes, c'est un peu moins présent, voire pas du tout. C'est plutôt sur la façon dont on pourrait estimer sa capacité à évaluer sa fertilité. Ouais, c'est principalement sur ces types de sujets que ça va aller cette année. Mais en tout cas, on s'aperçoit quoi, il y a du bullshit, il y en a eu, peut-être un peu moins depuis 2-3 ans. Mais c'est vrai que le drone livreur de PQ, faut pas le prendre au premier degré. C'est-à-dire que c'est une présence d'une grande marque internationale qu'on ne citera pas et qui avait aussi d'ailleurs créé un ours qui avait un capteur qui permettait de sentir si on pouvait ou pas rentrer dans les toilettes après que quelqu'un y soit passé ou attendre quelques minutes. Donc ils avaient été assez loin, à trouver ça assez fun. Le CES, c'est aussi ça, c'est 90% de boulot, 10% de fun, on reste à Las Vegas. Et on reste aussi dans la tech, donc il faut aussi aller chercher des choses qui sont intéressantes. Des fois c'est fun, voilà. Il faut aussi accepter que le CES ce soit une partie de fun, sinon ce serait lassant. Déjà que les taxis nous en veulent de pas dépenser assez parce qu'on est des gens de la tech et on travaille trop. Ils préfèrent, comment il nous avait dit le taxi driver, on préfère le séminaire des vendeurs de voitures automobiles parce que c'est quand même plus simple, ils dépensent un peu plus d'argent au casino. Voilà.
Et voilà, c'est pour tout ça quand même que le CES reste le CES et reste unique au monde. Hein. Je pense que vous ne me contredirez pas. Merci beaucoup à tous les deux, à Mathieu Deboeuf-Rouchon et Lionel Tardy, donc auteurs de ce guide, le guide de survie du Consumer Electronic Show, édition 2024, qu'on peut se procurer, évidemment en version papier, en version électronique également.
Exactement, Kindle notamment.
Kindle notamment, donc à télécharger pour survivre à cette édition 2024 du Salon de Las Vegas. Merci beaucoup, messieurs.
Merci, Jérôme.
Merci, Jérôme.
Voilà, c'est la fin de cet épisode de Monde Numérique l'Hebdo. J'étais ravi de passer ce moment avec vous. Et encore une fois, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, surtout pour ne rien rater du CES de Las Vegas. Que vous soyez fan de voitures hyper connectées, de nouveautés technologiques dans l'informatique, dans les objets pour la maison, dans la e-santé aussi, beaucoup de choses. Vous verrez, cela va du plus sérieux et du plus prometteur pour le futur au plus futile. C'est ça le CES de Las Vegas et j'aurai le plaisir de vous le faire vivre au plus près de l'événement. Encore une fois, avec des podcasts audio quotidiens, des vidéos sur les réseaux sociaux et la newsletter. Abonnez-vous à la newsletter en allant sur le site mondenumérique.info. Je vous souhaite une très bonne semaine, pleine de tech. Salut, à bientôt.